Entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Bonjour Juliette Manel.
Bonjour.
Je vous reçois aujourd'hui pour un ouvrage qui s'appelle Pizzica, qui est publié aux éditions Lanskin. C'est de la poésie, mais une poésie tout à fait particulière et on va avoir le temps de la lire, de l'entendre et d'en parler. Vous êtes née en 2000 en Haute-Savoie. Vous êtes diplômée d'un master de création littéraire du Havre. Vous écrivez de la poésie, des formes hybrides, des récits, des performances, enfin des textes performés. Et Pizzica, qui est paru en 2025, est votre premier ouvrage.
C'est ça.
Voilà. Et donc, je vais vous demander, pour faire connaissance progressivement avec vous et avec votre voix, de bien vouloir nous lire un extrait de l'ouvrage.
Je vais commencer avec le tout début. Chez moi est un royaume, chez moi est un endroit où je parle le moins. Celles qui ont droit aux bouches sont les araignées noires. Elles ont dedans des lauriers en couronne, elles mâchent le règne dans leurs cieux en terre. Sur le sol des peuples, à la sortie des trous, elles mâchent les femmes pour souvenir à nos bouches qu'elles n'ont pas le droit, que les bouches des araignées noires peuvent dormir dans les nôtres si on ne les clôt pas, que les nôtres en été ne parlent que pour elles. Chez moi, dans le royaume, les langues payent la dîme aux bêtes de sous-terre. Chez moi, dans le royaume, nous aimons l'araignée et tous ses châtiments. Les corps qui dansent font peur pourtant, aimons le châtiment de nos bouches incontournables. Dedans, les araignées disent « L'amour est souverain, l'obéissance sauve, je crois le dire aussi. »
C'est quoi les araignées pour vous? C'est quoi comme... D'abord, c'est une tarentule, je crois.
Oui, voilà. Dans ce rituel, en tout cas, c'est des tarentules dont il s'agit. Je peux parler peut-être un petit peu du rituel pour commencer, auquel elles sont associées. Voilà. Pizzica, c'est un livre sur le rituel du tarentisme que j'ai découvert quand j'étais au sein de ma famille dans les Pouilles. Et donc en fait, il s'agit d'un rituel qui est basé sur la croyance que les tarentules, quand elles mordent les individus, ça les rend malades, mais au sens de la maladie vraiment physique et peut-être aussi mentale, et qu'il faut donc se débarrasser de ce venin, de cette morsure, en dansant, en entrant dans une espèce de transe qui permet donc d'évacuer le venin du corps. Et pour ça, il faut à la fois contenter la tarentule qui possède le corps et à la fois se battre contre elle par moment. Enfin voilà, il y a plusieurs techniques qui servent cet objectif de guérison, en fait. C'est un rituel qui est thérapeutique.
Et vous avez assisté à ce rituel?
Non, je n'ai pas pu y assister parce que c'est un rituel qui a disparu quand avec la mondialisation. Ces formes rituelles en Europe, en tout cas, elles ont disparu. Et je crois que les derniers épisodes de tarentisme qui ont pu être observés, c'était dans les années 70, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'était il y a quelques décennies. Et aujourd'hui, maintenant, c'est rentré dans le folklore plutôt. Donc on peut voir des danses traditionnelles qui sont rejouées. Mais moi, j'ai pu avoir que des récits de tout ça, de ce qu'était le tarentisme. Voilà, donc c'est pour ça que ça recouvre pour moi une part de fantasme aussi.
Ils fondent dedans pour m'acquitter de tout. Je deviens molle, douce, gentille. Mon ongle, c'est de la pâte. Venez, venez, araignée, venez sentir qu'il ne vous tranchera pas. Je vous aime en vie, je vous aime entière. Chez moi, elles vivent ainsi d'une vie sérieuse. Elles ont mis des lois dans nos bouches à baldaquin. Disons-nous, ne tuons pas, ne jamais mettre le pied qui tue sur les araignées noires. On dit toujours araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin.
Mais alors, complètement, et d'ailleurs je le cite juste après, araignée du midi, souci.
Souci, enfin,
me base sur cette expression.
Dans un petit village des Pouilles, donc, il y a une jeune femme qui assiste avec le reste de la communauté au rituel, ce rituel du tarentisme que vous venez de nous décrire, destiné à guérir grâce à la danse, la tarentelle, la pizzica. La musique et les couleurs, les personnes mordues par la tarentule et prises d'un grand mal. Mais vous-même, vous êtes de cette région-là ?
Moi, j'ai de la famille qui est originaire d'Italie, des Abruzzes, donc en face de Rome, au niveau de l'Adriatique. Donc, il y a une région où il y a aussi eu des épisodes de tarentisme, mais le vrai terreau du tarentisme, c'est les Pouilles. Et par contre, j'ai une partie de ma famille qui s'est délocalisée, on va dire, dans les Pouilles. Et donc, c'est quand j'étais dans les Pouilles que j'en ai entendu parler. Donc, je ne sais pas quel lien réel j'ai au tarentisme, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a fascinée. Et en effet, peut-être que c'était un moyen de rentrer en contact aussi avec cette partie de ma famille, avec mes origines, parce qu'en fait, c'est un rituel qui déplace la parole. Donc, en fait, peut-être que j'avais plus besoin de parler parfaitement italien pour pouvoir être intégrée à ce patrimoine aussi.
Il y a des petits morceaux d'italien dans votre ouvrage,
oui.
Mais est-ce que là, c'est en patois ou est-ce que c'est en italien
Alors, il y a les deux. Les morceaux que j'ai intégrés vraiment dans le bloc, enfin dans le texte, c'est de l'italien. Et les morceaux couvrent, enfin les vers qui ouvrent la dernière partie, ça c'est du patois. Parce que je l'ai récupéré vraiment dans l'ouvrage d'Ernesto De Martino, La Terre du Remords, qui a été ma bible pendant toute l'écriture. Et j'ai juste transposé, voilà, il n'y a pas d'altération.
Et pourquoi aller chercher cela, enfin, pour vous-même dans votre... Parce qu'est-ce qu'un écrivain ou une écrivaine ou une auteure, je ne sais pas comment il faut dire, une Juliette Manel en tout cas, quand vous écrivez quelque chose pour vous exprimer obligatoirement. Oui. Et donc, quel est votre rapport à ça? Quelle est l'idée que
à la langue italienne
ou à la langue italienne et à la ritualité de cette affaire de tarentelle, de tarentule?
Alors, pour commencer, je vais commencer par la langue italienne, peut-être, parler de ça. Moi, j'ai vraiment fait un gros travail documentaire pour savoir ce que c'était le tarentisme, pour vraiment comprendre, parce que ça me fascinait. Et je pense que ce livre, c'est aussi pour moi une sorte d'hommage au tarentisme, qui est un rituel que je trouve très beau, que je trouve nécessaire, enfin... Voilà. Et donc, la langue italienne, ça faisait partie des éléments qui existaient dans ce rituel, donc je voulais... qu'elle puisse apparaître dans le livre à certains endroits. Surtout parce qu'elle participait aussi à l'oralité. Enfin, finalement, ce tarentisme, il y a un environnement sonore qui va avec. Et donc, la langue italienne en faisait partie, elle était musicale, et pour moi, elle avait toute sa place ici, et il fallait qu'elle apparaisse à un endroit.
Vous pouvez lire la page 18 et 19, parce que justement, elle apparaît, donc ça serait bien, j'ose pas le lire, la lire moi-même.
La page... Oui.
J'ai les ongles mous et pas de poche.
J'ai les ongles mous et pas de poche dans les robes. Je n'ai rien à chuchoter au trou des terriers et des confessionnaux. Je ne tue pas les araignées, je les aime les yeux plissés. Io non ucciderò i ragni, io non ucciderò i ragni. Chaque rencontre est un dimanche de fuite, dimanche de notables sur la calèche en promenade. Le dimanche, je joins toutes mes mains devant le cœur et mes pieds courent sur l'eau. J'ai l'araignée aux yeux et puis de moins en moins. Je franchis les champs, les familles, je cours jusqu'à cécité, cherche l'autre pays où l'araignée est mouche.
Vous ne tuez pas les araignées.
Non, oui, en effet, ce passage fait référence à je ne sais pas si on peut appeler ça une superstition, mais en tout cas à la croyance que tuer les araignées porterait malheur, en fait, et peut-être pourrait amener le tarentisme.
Une araignée est supposée même apporter, je parle des araignées normales, pas de maison, elle apporte du bonheur à la maison. Enfin, moi, on m'a toujours dit qu'une araignée, c'était pas mal, quoi, d'avoir une araignée
dans
la maison.
Oui, c'est vrai, normalement, mais en même temps, là... Peut-être que c'est un peu différent dans cette région, donc oui, peut-être qu'elle apporte du bonheur, mais par contre la confrontation avec elle peut provoquer un épisode de tarentisme, peut provoquer la maladie, donc il faut s'en préserver.
Cela dit, on dit aussi une araignée dans le plafond quand on est un peu dérangé de l'esprit.
Ah, je ne connaissais pas cette expression.
Une araignée dans le plafond, il a une araignée dans le plafond. Et puis surtout, moi j'ai aussi entendu dire, et j'ai lu par exemple le Silvio Pellico, l'auteur italien, qui était en prison, il s'ennuyait, il était donc un carbonara, et il avait dressé une araignée. Et dans sa mémoire, qui s'appelle Méprison, il raconte que tous les matins, il nourrit une araignée, il la dresse, et que ça marche, quoi. Les araignées ne sont pas dénué d'esprit. Voilà. Donc preuve que les araignées, c'est d'être complexe. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui m'a effrayé un petit peu. Vous avez dit, ça a disparu le rituel du tarantisme à cause de la mondialisation. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Vous êtes sûr que c'est à cause de ça ou c'est simplement...
Je l'ai certainement simplifié, mais en tout cas, ce que j'ai lu moi là-dessus, c'est qu'à partir du moment où le monde il a été connecté, en fait, ces formes-là de rituels, elles sont apparues comme complètement archaïques pour le reste du monde, et que donc il y a eu une espèce de moquerie dirigée à cet endroit-là, et donc le tarantisme aurait disparu, notamment en raison de cette connexion aux autres cultures. Et d'ailleurs, dans mon livre, il y a un passage où il y a un étranger, en fait, qui est là et qui se moque, en fait. Il est dans la posture presque du colon qui arrive et qui comprend pas et qui a pas envie de se plier au code de la culture locale et qui a une forme de mépris, en fait, dans sa présence même.
On va en parler un petit peu plus donc de ce pizzica, de cet épisode de tarentelle et de tarantulisme autour de pizzica, autour de Juliette Manel. Et on va aussi parler de la couverture tout à l'heure. Les araignées sont très puissantes, les araignées blessent et consolent. Je les prie quand je fais ma toilette. Les racines ne sont pas mieux, les racines sont instables et n'aiment pas les femmes. La sève n'est pas mieux, la sève emprisonne et ne donne pas de danse. Le ciment est un leurre.
En rouge, très robe, Assunta fait les pas dans les vignes des hommes. Elle porte un dos nu où des lèvres s'agitent, j'entends, je fumerai la pipe d'une bouche de femme, porte le pantalon comme monsieur des champs. Derrière elle est mon ombre à peine visible, mon verre des plans. Cuisse moite et ventre en vrac fermé, le bruit de dents pour ne pas devenir. Fou cœur furieux, ne prends pas crainte dans les plans comme nous. J'ai toutefois dans les vignes muettes, les herbes sauvages regardent. Leur calme tranquille quand je donne mes lèvres regarde la paille qui s'offre et les branches autour. Dans j'entends, n'ayez pas peur de vos mains belles et corps en nu. Et dans ce grand champ du oui, je pourrais tout y faire si dans ce grand champ du oui, il n'y avait les pieds. Laissez là très profond en empreinte de faute. Ici, la vignée danse Assunta, sortons nos pieds des pas Assunta, mettons-les tout en l'air. Soyons enfin dans un moment sans laisser tout derrière Assunta. couchons nos corps en fièvre, Assunta, mangeons nos lèvres en fièvre, soyons nos fièvres en vrai. Sous le soleil, j'ai 39, les joues brûlantes, les jambes qui tremblent, souffle très court, le village qui remonte ravalé en salive pour ne rien laisser voir, une peur à mourir ou un désir très grand. Allongée comme aimée ou bien morte déjà, je cherche les signes, une bénédiction, le dessin de croix en caresse dans mes jambes, Assunta, palpe tout en doux, à voir si tu le trouves, et je range les brins qui nous montent au-dessus, à chaque baiser nouveau, l'herbe pique les cuisses, je cherche les trèfles, la quatrième feuille, mais cela est trop peu de feuilles, cela est trop piquant pour un baiser d'été.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
C'était un extrait de Pizzica de Juliette Manel, lu par Juliette elle-même, qui vient de paraître aux éditions Lanskin. Sur la couverture, il y a une photo ou un montage photographique qui est réel, je crois, où on voit justement une femme allongée, plus ou moins immobile, mais ça on ne sait pas puisque c'est une photo. Et des tas d'un cercle de personnes autour d'elle, et je crois que ce sont presque exclusivement des hommes. C'est ce qu'on voit, en tout cas on voit leur casquette ou leur chapeau. Ils n'ont pas l'air très féminins en tout cas. Et donc ils font cercle autour de cette femme qui a dû être mordue, je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette photo alors? Oui.
Alors, cette photo, c'est une archive du tarantisme qui a été prise par Franco Pina en 1959, lors de l'enquête avec Ernesto De Martino. Voilà, moi, je l'ai récupérée dans La Terre du Remords d'Ernesto De Martino. C'est là qu'elle paraît. Et donc, elle m'intéressait beaucoup parce que, en effet, elle montre l'importance de la communauté et on voit cette femme qui peut-être est déjà un peu en train de devenir l'araignée au sol. Et c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous dites sur le fait qu'il y a quasiment exclusivement des hommes. Je ne sais pas pourquoi sur cette photo en particulier, parce que dans les témoignages que j'ai lus, normalement ça a l'air d'être plus mixte au niveau de l'assistance qui regroupe le village. Mais par contre, c'est vrai que les tarantulés, du coup les personnes qui étaient mordues par la tarantule, étaient souvent des femmes, pas que, mais majoritairement. Et c'est intéressant qu'il y ait cette binarité entre les hommes d'un côté et la femme au milieu, parce qu'en fait, pour moi, le rituel du tarantisme, c'est un moment de l'année où les choses, elles s'inversent. C'est un moment qui est hors du temps, hors du quotidien, où voilà, tout ce qui ne peut pas exister dans nos vies, dans les vies quotidiennes, ici, elles ont droit d'être. Il y a une forme de jeu aussi où on peut se transformer, on peut devenir qui on veut. C'est un endroit complètement désordonné qui vient un peu répondre à l'ordre de l'existence. Et ici, peut-être qu'il y a aussi un retournement de situation avec les hommes qui sont dans les représentations, finalement, ceux qui sont en activité, en mouvement, au centre de l'attention, et les femmes plutôt dans la passivité et dans quelque chose de plus immobile dans les représentations qu'on en a, en tout cas. Et là, c'est l'inverse. C'est la femme qui est au milieu et qui agit sous le regard de l'homme. Et je trouve que c'est intéressant.
Ou qui les fascine d'une certaine façon. Enfin, là, ils regardent tous, quoi.
Oui.
Et on ne sait pas ce qu'elle fait. Peut-être qu'elle est en transe, peut-être qu'elle est immobile, on ne sait pas. Mais alors, l'histoire de votre livre, parce qu'il y a, quand même une narration, il se passe quelque chose. Et c'est compliqué parce que comme tout ça, ça se passe de façon virevoltante, avec un rapport à une langue très vivante, très... joueuse aussi à beaucoup d'égards et en plus mélangée dans les styles. D'une certaine façon, vous écrivez des phrases tout à fait classiques et à la fois vous les désarticulez, vous répétez les mots, vous jouez avec, vous mettez un peu d'italien, un peu de patois et ça repart. Et tout ça pour une espèce de circulation qui semble évoquer justement la tarentelle, quoi, le virevolte. Si on peut dire, le virevoltement, je ne sais pas quoi, de celle qui a été mordue ou de celle qui va être mordue. Et donc, il y a une femme, il y a trois personnages principaux. Il y a une femme qui est mordue par l'araignée, une narratrice ou quelqu'un qui regarde, et puis une troisième personne qui s'éloigne avec plus ou moins la narratrice, un peu prenant des distances vis-à-vis de ça, et qui finalement se fait rattraper et se fait mordre et pratique elle-même le tarantulisme physique, c'est-à-dire voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe exactement? Voilà, c'est ça, parce que j'ai compris ou c'est
plus ou moins? Oui, en effet. En fait, la narratrice, elle est d'abord dans une position d'observation où elle, voilà, elle regarde Pia qui est en train d'exécuter le rituel. Et donc la narratrice, à un moment, est attirée par, par ce troisième personnage dont vous parliez, qui, elle, est complètement en dehors et qui l'attire, elle aussi, en dehors de cette assistance. Donc elle manque à son devoir à un endroit. Et donc c'est en se rendant auprès de cette autre femme, que ça soit de manière complètement fantasmatique ou de manière réelle, ça on n'est pas trop sûr, mais en tout cas c'est en s'éloignant de ce cercle qu'elle-même se fait mordre par la tarentule, donc la narratrice, et elle doit à son tour exécuter le rituel. Et en effet, il y a quelque chose peut-être d'un petit peu difficile dans ce livre qui, pour moi, était en fait nécessaire, parce que dans le rituel, c'est quelque chose qui porte en lui, pour moi, un secret, une énigme, un mystère. Et je ne pouvais que le retranscrire. Enfin, je voulais préserver ce secret. Enfin, le rituel, c'est un endroit où la parole aussi, elle se déplace. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, il y a quelque chose qui se dit dans le rituel, qui n'est pas de l'ordre des communications ordinaires. Et donc, moi, pour écrire ce rituel, je devais aussi, à travers la langue, m'échapper de quelque chose qui aurait pu être plus classique, plus ordinaire. Enfin, je devais, moi aussi, me laisser rattraper à un endroit par cette transe et par ces dialogues, ces communications totalement déconnectées des adresses conventionnelles, on va dire.
Oui, j'ai l'impression, enfin à mon avis, c'est justement un peu ce en quoi votre livre est effectivement de la poésie, parce que ben, c'est bien justement, me semble-t-il, le rôle de la poésie de transcender ou de ne pas oublier qu'il existe une communication non logique, non simple, non transmissible normalement et qui utilise des méthodes, des façons de parler ou d'écrire qui sont de l'ordre de la tarentelle, de l'ordre de la danse, de l'ordre de, enfin que voilà. Mais ce qui est très impressionnant, c'est à quel point votre texte est, comment dirais-je, il est truffé de corps. C'est-à-dire il est à la fois un texte littéraire, même un petit peu expérimental d'une certaine façon, c'est-à-dire que vous interdisez pas d'y aller un peu fort sur le jeu avec les mots, et à la fois on parle du corps, on parle non seulement du corps, mais on parle du corps de la femme ou de ces femmes, on parle de quelque chose de l'homme, enfin on parle des hommes sans en dire grand-chose d'autre, qui sont là, qui sont comme ils sont, qui sont une sorte de danger, mais peut-être pas aussi dangereux que les araignées, et qui sont peut-être même eux-mêmes pour une part des araignées. Voilà, il y a une espèce de monde un peu flou où les identités, en dehors de l'identité féminine qui est à mon avis claire, toujours claire, les autres identités sont mouvantes. Voilà.
Oui, complètement. Parce que, comme je le disais déjà, c'est un temps qui est hors du temps précisément, et donc on peut être d'autres personnes, ou les autres personnes deviennent encore d'autres personnes pour nous. Enfin, il y a quelque chose de complètement flou. Pour les femmes, la possibilité aussi de devenir quelqu'un d'autre, c'était très important, et c'est peut-être ce qui donne le sens à ce rituel. Et ce rituel, il existe aussi en fait à travers toute une symbolique. Enfin, en tout cas, ça c'est la théorie d'Ernesto De Martino, c'est-à-dire que l'araignée, elle est là pour la morsure de l'araignée, elle n'est pas réelle, elle est symbolique, elle est là pour ramener à un événement du passé qui aurait été traumatique et qu'il faut gérer. Et donc en fait, l'araignée, elle représente quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, et on a une espèce de... Là, l'araignée, c'est à la fois son amante, à la fois Saint-Paul, à la fois elle-même aussi, si elle est possédée, et tout ça tourne. Parfois, ils sont en dialogue, et parfois, il y a une espèce de fusion qui opère.
Ici, le danger vient d'en dessous. Il doit savoir, le danger vient d'en dessous. Les tarentules vivent en dessous, dans les trous d'en dessous. Elles trouent la peau. Elles plongent dans les trous de la peau, grandissent dedans, elles dansent dedans, nous.
c'est quelque part entre enfants et
FM 93.1.
Eh bien, je suis avec Juliette Manel pour de son ouvrage Pizzica, qui est publié aux éditions Lanskin, qui est une poésie qui parle de la tarentelle, mais surtout de ce rituel des pouilles en Italie qui existait, où une femme se fait piquer par une tarentule et il se passe énormément de choses d'ordre subjectif et aussi d'ordre curatif ou divinatoire à certains égards, peut-être aussi. Et donc Juliette, merci d'abord d'être avec nous pour cette lecture. Et je voulais aussi, parce que dans l'histoire qui est dans ce, j'allais dire ce roman, mais plutôt de ce livre de poésie, il y a la narratrice qui est accompagnée d'une autre personne et il y a une femme qui s'appelle Pia qui est piquée par la tarentule. Mais à un moment, elles s'éloignent de toutes les deux, d'ailleurs, de celle qui a été piquée, donc celle qui est initiée quelque part ou qui est en phase d'initiation. Et on a l'impression, par moment, que cet éloignement, qui est aussi celui de l'écrivain ou de l'écrivaine, c'est une sorte de trahison, une petite trahison, ou une espèce de non-adhésion à quelque chose. Et ça m'a frappé. Et je trouve que ça vaut la peine de savoir trahir une cérémonie ou ne pas rentrer dans un cérémonial. Est-ce que c'est pour se protéger? Est-ce que c'est parce qu'on ne le supporte pas? Qu'est-ce que c'est que cette trahison-là?
Oui, en tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose de l'ordre de la trahison parce que le rituel appelle aussi l'assistance de la communauté. Enfin, il y a quelque chose d'institutionnalisé à cet endroit-là et elle faillit à être parmi eux. Pour moi, la manière dont je l'ai pensée, en tout cas ici, elle s'éloigne parce qu'il y a une tentation, en fait. Elle est attirée par quelqu'un d'autre et ça happe son attention et elle s'en va. Et peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre du sacrilège là-dedans, en fait. Elle s'en va pour vivre une relation homosexuelle avec une femme. Et alors peut-être, là je ne donne pas de réponse, mais peut-être que la morsure intervient aussi pour punir cet acte. En fait, la morsure, souvent, dans ce qu'on lit, pareil dans les témoignages, c'est lié à quelque chose qu'on n'a pas pu vivre et qu'il faut guérir. Ça peut être aussi lié à la culpabilité. Ça pourrait être quelque chose, une espèce de punition divine qui s'abat sur cette narratrice parce qu'elle a trahi. Et en même temps, ça pourrait être aussi, cette morsure, une manière de lui faire vivre cette évasion auquel elle n'a pas droit, en fait. Elle n'a pas le droit de s'évader et d'aller embrasser une femme dans les champs. Donc peut-être qu'elle a besoin de l'araignée pour faire ça.
Oui, mais peut-être aussi que son intérêt pour la jeune femme dans les champs, c'est une autre morsure. Je veux dire, c'est une substitution de morsure, en quelque sorte. Enfin, je ne sais pas comment dire.
Oui, c'est ça, morsure. Sa morsure, ouais, sans doute.
Elle n'a pas besoin de l'autre, ou...
Ben peut-être qu'elle en a besoin parce que c'est une morsure qui, dans une société de l'époque patriarcale catholique, cette morsure-là ne pouvait pas exister, la morsure de l'amour. Donc elle a besoin de la morsure de la tarentule pour... Ernesto de Martino, il utilise le terme accrédité par la société en parlant du rituel. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. On accepte, tout le monde ferme un peu peut-être les yeux sur ce qui se passe. C'est un endroit de liberté.
De liberté ou... parce que c'est un endroit de liberté, ça veut dire que tout le reste peut librement s'exercer comme une répression. Enfin, comment dirais-je, la liberté limitée au rituel, c'est tout de même une liberté extrêmement étriquée.
Oui, bien sûr, parce que le reste de l'année, par contre, il faut se conformer à la norme et... Enfin oui, c'est court et puis c'est normatif quand même, en fait.
Absolument. Ouais. Voilà. Il y a des règles, mais ça va jusqu'à la, ça va jusqu'à la transe. Enfin, cette histoire de tarentelle, hein. C'est pas juste. Elle est là sur le sol, piquée par la. Il se passe des choses qui sont comme une transe.
Oui, et qui sont relatives à la possession aussi. Enfin, mais vraiment son corps est complètement à l'épreuve. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi en travaillant sur le souffle dans mon texte. C'est de montrer à quel point son corps et son esprit sont complètement altérés, en fait.
D'ailleurs, quand vous lisez, vous soufflez un peu.
Oui, ben j'inspire, je reprends mon inspiration, mais je n'expire jamais, ce qui provoque aussi cet essoufflement. Et... c'est également parce que c'est écrit en vers ou phrases très très courtes, donc il y a quelque chose qui s'accélère dans la voix.
J'ai toutefois dans les vignes muettes, les herbes sauvages regardent leur calme tranquille quand je donne mes lèvres, regarde la paille qui s'offre et les branches autour dont j'entends « N'ayez pas peur de vos mains belles » et le corps en nu et dans ce grand... chant du oui, je pourrais tout y faire. Si dans ce grand chant du oui, il n'y avait les pieds laissés là très profonds et empreinte de faute ici la vigne. Et danse, Assunta, sortons nos pieds, des pas, Assunta, mettons-les tout en l'air. Soyons enfin dans un moment sans laisser tout derrière. Assunta, couchons nos corps en fièvre, Assunta. Mangeons nos lèvres en fièvre, soyons nos fièvres en vrai. C'est beau, hein ?
Merci.
Voilà, mais donc là, voilà, elle est avec sa... il se passe des choses dans cette poésie des tarentelles et des tarentules. Il se passe des choses, hein ?
Oui, mais en fait, toute la question, c'est de savoir à quel endroit ce qui se passe... et effectif, réel, et à quel endroit c'est un fantasme, parce que le tarentisme, moi c'est ce qui m'intéresse là-dedans, il permet en fait de vivre ce qui n'a pas pu être vécu. Enfin, je peux lire un petit passage que je trouve très très beau, pas de mon texte, mais de ce que Desmartino en a dit. La tarentule prête figure à l'informe, rythme et mélodie au silence menaçant, couleur à l'incolore. Il offre une perspective pour imaginer, écouter et regarder ce par quoi l'on est sans imagination, sourd, muet, et qui cependant requiert péremptoirement d'être imaginé ou écouté. Donc pour moi, c'est ça le rituel. C'est ce qu'elle fait, ma narratrice, c'est qu'elle elle imagine des choses, notamment avec son amante. Est-ce que ces choses-là se produisent vraiment ou ne se produisent pas dans la narration? On ne sait pas vraiment. Mais moi, c'est ce que j'ai adoré aussi dans l'écriture de ce texte, et c'est pour ça que je trouvais que le rituel, il se prêtait vraiment à une écriture littéraire. C'est que tout est possible, en fait. Dans le rituel, la personne qui exécute le rituel, elle est en création, en fait. Elle crée une histoire, elle imagine, elle joue un jeu. Et donc, nous, quand on essaye de transposer ça dans la littérature, c'est un terrain extrêmement fertile pour les histoires, pour la création d'histoires.
Oui, elle joue sûrement un jeu, mais elle joue un jeu avec son corps, ses possibles, ses impossibles, oui, ses lois, ses frustrations, comme une espèce de cure.
Oui.
De cure. Ça me fait penser à Antonin Artaud et au peyote, oui, et à tout ça. Comme une cure étrange, où on fait des expériences mentales aux extrêmes pour se trouver soi-même. Voilà.
Oui, c'est vrai que le terme jouer un jeu n'est peut-être pas le bon, dans le sens où c'est pas conscient de jouer ce jeu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre... Quand je parle de jeu, je parle du fait de pouvoir incarner des personnages et d'autres personnes, mais c'est pas consciemment, c'est pas un mensonge, je crois pas. Je voudrais être en télépathe, entendre toi en lèvres cousues, en tout motus. Quand les âmes balbutient de loin, les mots se perdent, il faut coller les âmes en si lance l'une contre l'autre et tout à fait les imbriquer. Ma joue d'âme dans ton coup d'âme, ton sexe d'âme dans mon sexe d'âme, ça se rentre parfaitement alors. Âmes imbriquées dans son fondu pour qu'elle déterre. Partage les secrets.
Pizzica de Juliette Manel. Merci. Ça fait un petit peu peur quand vous respirez comme ça. C'est joli. C'est quoi votre relation au rituel de la en général et au rituel parce que le rituel de la tarentelle, bien sûr, de la tarentule, pardon. C'est quoi votre relation à ça?
C'est drôle parce que ce qui a été difficile dans l'écriture, c'est de comprendre en fait ce qui me fascinait vraiment dans ce rituel. Il y avait plein de choses qui m'appelaient au niveau notamment de la position des femmes, de la spiritualité. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses qui m'attiraient. Mais en même temps, je sentais que j'arrivais pas à pointer ce pourquoi j'avais envie d'écrire là-dessus. Et je pense qu'en fait, ce qui m'attirait, c'était justement cette dimension irrésolue. Enfin, ce à quoi je pouvais pas répondre, c'est ça la fascination, et c'est peut-être ce que ce livre essaye de faire, c'est de l'explorer. Et moi, je m'amusais à dire que peut-être j'avais été un peu mordue moi aussi, et que ce livre, c'était ma manière moi aussi d'expulser ce venin. Et voilà, en plus, je pense que en fait, dans ce livre, c'est quand même finalement la narratrice, on peut imaginer que c'est une jeune adulte, une jeune femme, et qu'elle est en train de vivre ça pour réussir à mener correctement sa vie d'adulte, se confronter à ses problèmes existentiels. Et notamment, vous m'avez demandé de choisir les musiques, et la deuxième chanson que j'ai choisie, Tête brûlée d'Iliona, je me demandais quel rapport elle avait avec mon livre, si elle en avait un, et je crois qu'elle en a un. En fait, elle commence sa chanson en disant c'est quelque part entre enfance et vie, et je trouve qu'elle parle très bien de ce passage en fait à l'âge adulte, où tout d'un coup, il faut se conformer aux normes, il faut travailler correctement et dans le bon cadre, aimer correctement les bonnes personnes dans le bon cadre. Et c'est une période qui est difficile, c'est peut-être la période que vit ma narratrice, et peut-être la période que je vivais moi aussi ces dernières années. Et je ne sais pas, je me dis que peut-être si j'avais vécu il y a 50 ans dans les Pouilles, ce serait en ce moment que la piqûre de la tarentule aurait pu advenir. Voilà.
C'est pour couper qui ? Le corps des hommes que je n'aime pas du tout, le tien, les hommes du passé ou le toi du passé, le passé maman, fais-moi naître aujourd'hui, oui, le passé passé, je n'en veux rien savoir que la petite mort que j'ai donnée. Et alors, il est temps, oui, je les entends, les sons, je t'ai compris, c'est compris, oui, oui, San Paolo. Oui, San Paolo, je la reçois, ta grâce, il est midi, je la reçois en plein dans le corps, et quand je bouge, comme ça, je la sens. La petite mort, la morsure, petite morsure.
C'est vrai.
En quelque sorte.
Oui.
Et ben voilà, on a avancé tout doucement dans ce livre qui est complexe et... Voilà, qui pourrait aussi se scander, enfin non seulement se scander, mais il y a un côté musical hein, dans votre travail d'écriture, dans votre écriture. J'aime pas trop le mot travail en matière de littérature, même s'il y a beaucoup de travail. Vous avez fait comment pour écrire ça ? Comment ça s'est passé ? Que c'était quoi ? Vous êtes mis devant une photo de tarentelle et puis vous avez commencé à écrire, ou comment ça s'est passé ?
Au début, j'ai essayé d'écrire de manière assez libre avec l'imaginaire que j'avais. Je crois que j'ai été assez vite bloquée parce que si je voulais... j'avais envie de faire quelque chose qui était quand même fidèle à ce qu'était le tarentisme. J'avais pas envie de dire n'importe quoi. Donc j'ai fait beaucoup de recherches documentaires. Je suis vraiment partie des recherches documentaires pour écrire. Et il y a un moment où ça m'a bloquée aussi, en fait, parce qu'il fallait que je m'en libère et que je laisse l'écriture venir, elle aussi, du corps, en fait, et pas seulement du cerveau. Et que donc, je parte de cet imaginaire qui constituait un cadre et que, je me laisse entraîner là-dedans. Et donc, ensuite, ça s'est écrit par fragments que j'ai tissés entre eux. Et puis j'ai pensé la dimension performée tout au long du texte, parce qu'en effet, je voulais, pour moi justement, ça rejoint ce que vous dites par rapport au fait que c'est un livre difficile. Peut-être que l'oralité permet de le comprendre un peu mieux, et j'ai l'impression que quand je le performe avec une assistance autour, on recrée quelque chose un peu de cet espace rituel, et que peut-être que pour comprendre les rituels, il faut y être initié, et peut-être que l'initiation, elle se joue aussi dans cet espace de la performance.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Vous citez Alexandra Pizarnik au début de votre ouvrage, et vous, avec une, je ne vais pas lire tout, mais qui inventait les pluies et tissait les mots avec le tourment de l'absence. C'est très joli, je trouve. Et surtout, le sentiment que finalement c'est toujours, toujours dans le texte que ça se passe. C'est-à-dire, on a beau, je veux dire, vous avez beau avoir lu des ouvrages sur le tarentisme, sur la tarentelle, sur les araignées, etc., ça ne devient un texte poétique ou littéraire que si cette distance-là s'éloigne, c'est-à-dire s'estompe, et on fait un rite d'écriture qui se nourrit lui-même, en quelque sorte. Voilà.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, je m'étais posé la question de comment je faisais apparaître ces références dans mon texte. Je me demandais au début si je les mettais des phrases dans les marges. Et à un moment, je me suis dit non, ça doit être incorporé. C'est dans l'écriture que ça se passe. Et de toute manière, moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce rite, c'est de se dire qu'il y a quelque chose qui se dit, en fait, quand à travers la danse, à travers le corps, à travers la musique, les chants qui sont scandés. Et voilà, il y a quelque chose de très proche de l'écriture, selon moi. Et la parole, elle peut aussi reproduire ce mouvement du corps. Enfin, ça se passe vraiment dans la parole. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'est de me demander qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle danse, quand elle danse suite à la morsure de son araignée.
Ça grouille, des pattes. Partout, ça grouille, 8 pattes partout, 8 pattes dessous, un ventre rond, un ventre énorme, des œufs tout ronds, 8 parties, 8 pattes, tellement, enceinte, tellement, au bord des eaux, au bord de les lèvres en sang, les pattes en mille, beaucoup, beaucoup, c'est trop, c'est plein, déjà ça blot, la gorge fermée, mots abîmés, traverse, traverse, tes fils, tes cordes, ça passe pour toi. Toi, instrument, dodo, docile, si tu permets, décidément, je suis décidément ton clown. Stupide. Merci beaucoup, Juliette, pour ce poème narratif et oral tissé à partir des fragments de cette pizzica. Pizzica, c'est de la musique, c'est quoi pizzica?
Oui, très intéressant de terminer l'émission là-dessus. Pizzica, c'est le nom d'une des danses et ça veut aussi dire pincer, pizzicare. Et donc là, c'est ça pince, il pince, elle pince. Enfin, voilà, c'est la troisième personne du singulier du verbe pincer.
Eh bien, j'espère que ce livre pourra pincer beaucoup de gens, pizziquer pas mal de gens. Merci beaucoup, Juliette, pour d'être venue nous lire et nous parler de Pizzica, publié aux éditions Lanskin.
Merci à vous.
Au revoir.
C'était Chute libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie. Vous écoutez Aligre FM 93.1.